n'avez pas une Bible avec vous, vous allez pouvoir utiliser la feuille avec les versets qu'on vous a donnés à la porte. S'il y a quelqu'un qui n'a pas une feuille avec les notes, juste levez la main et on va demander à un placier de vous en donner un. Alléluia. Ce livre que j'ai entre mes mains, c'est pas un livre ordinaire. Vous êtes d'accord? Le papier, c'est bien ordinaire. Mais les paroles qui sont contenues dans ce livre sont extraordinaires. Amen. En fait, inspirées de Dieu, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui a établi ces paroles dans les cieux pour l'éternité. Et peu importe qu'est-ce qui se passe sur la terre, qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle, peu importe qu'est-ce qui se passe dans notre pays, notre ville, il n'y a rien qui peut changer la vérité qui se trouve dans ce livre. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vérité qui se trouve dans ce livre peut changer qu'est-ce qui se passe dans votre monde. Amen. Les circonstances ne peuvent jamais changer la parole, mais la parole peut toujours changer les circonstances. Donc, on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant être enseigné la parole de Dieu. Je vais recevoir une semence incorruptible. Et je ne serai jamais plus pareil. Je serai changé. Je serai transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bon, ce matin, on va continuer la série qu'on a commencée déjà il y a 4 semaines sur dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Et on a commencé à parler de ce sujet il y a quelques semaines et vraiment selon la direction du Saint-Esprit. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le jour qu'on vit, c'est un message indispensable, c'est un message important. Pas juste parce que le Seigneur veut que vous ayez des bons mariages, ceux qui sont mariés et ceux qui vont être mariés et ceux qui veulent être mariés peut-être un jour, mais parce que c'est vraiment un sujet qui est pas juste naturel, mais c'est surnaturel. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le plan de Dieu, c'est de se servir des mariages chrétiens pour être une lumière dans ce monde ténébreux. Pour être vraiment le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu veut se servir des couples qui sont en alliance avec Dieu et en alliance l'un avec l'autre pour démontrer au monde qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut faire dans leur vie. Amen. Et on va juste lire ici, en Éphésiens chapitre 5, on va lire ce texte aujourd'hui. Et je vous encourage, si vous n'avez pas assisté les autres semaines, de procurer la cassette ou d'aller sur le site web et d'écouter les messages sur le site web. C'est tellement important. J'ai pas le temps de faire une révision aujourd'hui, parce que si je fais trop de révision, on n'aura pas le temps de finir tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, mais procurez les cassettes et, ou écoutez sur l'Internet et vous allez être bénis, vraiment. Donc ici, en Éphésiens chapitre 5, verset 22, la parole de Dieu dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » L'apôtre Paul, il vient pas de sacrer là, OK? Mais il a dit juste la vérité. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Je sais que le mot « soumission », c'est pas tellement populaire aujourd'hui dans notre société. Mais on va voir aujourd'hui que si on comprend ce mot comme il faut, c'est pas une chose négative, mais c'est très, très positif. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que Jésus est un bon chef? Et que Jésus veut nous bénir? Et que Jésus veut nous protéger? Et que Jésus veut pourvoir à tous nos besoins. Et que Jésus veut nous rendre heureux. Amen. Donc, c'est pas difficile de se soumettre à Jésus parce qu'on sait qu'il est bon et il nous aime et il veut le meilleur pour nous, n'est-ce pas? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Tout le monde dit une Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On vient de lire la définition selon Dieu du mariage chrétien. Un homme qui est uni avec une femme pour jusqu'à la mort, vraiment une alliance qui ne peut pas être rompue. Amen. Et on voit ici que verset 32, ce mystère, tout le monde dit mystère. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc là, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, il vient de donner un résumé de ce passage. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc ici, on a vraiment la recette du succès dans le mariage. Dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Vous savez, si on va vraiment comprendre comment réussir notre vie conjugale, il faut d'abord comprendre la relation que nous avons en tant que chrétiens avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre que de la même façon que Jésus a dû quitter le Père, venir chercher son Église, un homme doit quitter son père et sa mère et chercher son épouse, s'attacher à elle et devenir une seule chair. De la même façon que Jésus a quitté les cieux, il est devenu un homme, il est mort sur la croix avec beaucoup de passion pour sauver l'Église, pour devenir une seule plante avec l'Église. Maintenant, de la même façon que Jésus et l'Église sont une seule plante, il est la tête, nous sommes le corps, mais nous sommes un. De la même façon, un homme est supposé de devenir une seule chair avec son épouse. On n'a plus deux, mais on a un. Amen? On a quand même les choses qui sont distinctes. Jésus va toujours être Jésus, c'est lui qui sera toujours la tête. Moi, je ne serai jamais la tête de l'Église. Amen? Je ne serai jamais la tête de Jésus, mais je serai pour toujours et à jamais et pour toute éternité un membre de son corps. Et je serai pour toujours uni à lui, et il n'y a rien qui peut me séparer d'avec Jésus. Je suis en alliance avec lui. Il a versé son sang, et mon alliance est scellée. Une alliance encore. C'est une entente où on dit, tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient, et tout ce que tu as et tout ce que tu es m'appartient. On devient une personne en lui. Amen. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mariage chrétien. Et on a commencé de cette série en parlant de comment avoir un long et heureux mariage ici sur la terre. Le but, vraiment, le plan de Dieu, c'est que vos mariages soient longs. Mais pas juste longs, mais longs et heureux. Amen. Pas juste longs et misérables. Pas juste longs et à peine supportables. Mais vraiment longs et heureux. On a dit pour avoir un long mariage, il faut comprendre la fidélité de Dieu. Il faut comprendre que l'importance de l'engagement qu'on fait par rapport au Seigneur et par rapport à notre conjoint. On fait un engagement et c'est un engagement qui ne peut pas être brisé. On garde cette alliance jusqu'à la mort. Il faut que ça soit comme ça. Le mot divorce n'est pas dans notre vocabulaire. On n'a pas une porte de panique en arrière. On n'a pas un moyen de sortir. On s'engage pour la vie, pour le mieux, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Si ça va bien, on continue. Si ça va mal, on continue. Mais qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? C'est que si on est sensible et obéissant à la parole de Dieu, on peut faire en sorte que notre mariage va bien aller et ça va être vraiment une joie de continuer longtemps avec notre partenaire dans le mariage. On a dit que la première semaine, on a fait le gâteau, on a posé le fondement de comment avoir un mariage qui va durer longtemps. Et la semaine passée, on a mis de la crémage sur la moitié du gâteau. On a parlé de comment un homme est supposé, même appelé de Dieu, à rendre son épouse heureuse. Tout le monde dit, les hommes, hein? Un mari est appelé à rendre son épouse heureuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est vraiment notre devoir. Je suis appelé à rendre Tania heureuse. Ça fait partie de mon appel. Et mon ministère, premièrement, est envers Dieu. Et deuxièmement, mon ministère est envers mon épouse et mes enfants. Et ensuite, c'est envers vous, l'Église. Amen? Et il faut que ça soit comme ça. Parce que si mon mariage n'est pas en ordre, si moi, je ne suis pas en train de prendre soin de mon épouse, comment est-ce que je peux prendre soin de l'Église? N'est-ce pas vrai? Donc, mon ministère primordial, à part mon ministère envers le Seigneur, c'est envers mon épouse. J'ai un devoir de la rendre heureuse. Et on a parlé de ces 5 besoins conjugaux. Les choses, on a vu qu'il y a 10 besoins conjugaux qui sont partagés par la plupart des couples. Et les hommes et les femmes ont besoin de ces 10 choses, mais en général, j'ai dit en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, il y a 5 de ces 10 besoins qui sont plus forts ou plus prévalent chez la femme, et les autres 5 sont plus prévalents chez l'homme. Et on a parlé de ces 5 besoins de la femme la semaine passée. Et si vous n'étiez pas là, écoutez l'Internet, achetez la cassette ou quelque chose, parce que je n'ai pas le temps de faire une révision. Mais aujourd'hui, on va mettre la crémage sur l'autre moitié du gâteau. Amen. La semaine passée, on a donné des devoirs aux hommes. On a dit au monsieur que vous avez du travail à faire. Ce n'est pas évident de faire qu'est-ce que le Seigneur nous a demandé de faire, et c'est impossible dans notre propre force. Quand Dieu dit aux hommes, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, ça, c'est pas une petite affaire, vous êtes d'accord? Il faut que je sois prêt à mourir pour mon épouse. C'est pas une petite affaire. Jésus est mort pour moi, je dois être prêt à mourir pour mon épouse. Jésus vit pour moi, il faut que je sois prêt à vivre pour mon épouse. Amen? Et c'est ça qu'on a fait. On a regardé le parallèle entre l'Église et le mari, et Jésus et le mari et la femme. On va faire la même chose aujourd'hui, mais on va faire l'autre moitié. Aujourd'hui, on va parler de comment une femme peut rendre son mari heureux aussi. Amen? Et vous savez, c'est important. Regardons juste pour commencer, dans vos notes, il y a 2 choses qu'on veut souligner. On va dire tout simplement que la première responsabilité du mari, c'est d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Et ça, là, je base cela sur verset 33 de Éphésiens 5, on vient de lire. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, on dit la responsabilité primordiale de l'épouse, c'est de respecter son mari comme l'Église respecte le Seigneur Jésus-Christ. OK, est-ce que vous êtes là? Moi, mon appel, c'est d'aimer mon épouse de la même façon que Jésus aime l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord que ça prend la force surnaturelle de Dieu pour accomplir cette tâche? Mais vous, mesdames, votre rôle, c'est de respecter votre mari et avoir le même respect pour votre mari que l'Église a pour le Seigneur Jésus-Christ. Et laisse-moi vous dire que ça prend aussi la force surnaturelle de Dieu, n'est-ce pas? Et pour avoir un mariage qui marche bien, qui est bien réussi, ça prend 2 personnes qui font leur possible pour rendre l'autre personne heureux. Parce que si j'arrive dans un mariage et dis, mais là, finalement, je vais me marier et je vais être heureux parce qu'elle va me donner ça, elle va me donner ceci, je vais pouvoir avoir et prendre et prendre. Là, si on a 2 personnes qui viennent dans un mariage pour prendre, on a une recette pour le désastre. Mais si on a 2 personnes qui viennent et qui cherchent d'abord l'intérêt de l'autre personne, qui veut avant toute autre chose rendre l'autre personne heureux, ça c'est le ciel sur la terre. Amen? Mais voici la chose. Souvent, on arrive avec des situations où on a une personne dans le couple qui veut faire fonctionner le mariage, mais l'autre ne veut pas forcément. Et on ne peut pas contrôler l'autre personne. Et des fois, on pense, mais OK, je peux rien faire, mon mari ne veut pas coopérer. ou ma femme ne veut pas coopérer, donc je ne suis plus obligé de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. La Bible ne dit pas, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église si elle te donne du respect. C'est-à-dire que même si elle ne te donne pas de respect, vous êtes obligé de faire votre part avec un amour inconditionnel et d'essayer de faire fonctionner le mariage, n'est-ce pas? Mesdames, laissez-moi vous dire une chose aussi. Et j'ai fait des erreurs dans le passé, je pense. Parce que souvent, quand on parle de l'importance d'une femme de respecter son mari ou d'être soumis à son mari, on dit, mais je dis toujours, mais oui, c'est vrai, il faut être soumis à ton mari, mais le mari est supposé d'aimer son épouse comme Christ aimait l'Église, c'est-à-dire mourir pour elle. C'est facile de respecter quelqu'un qui est prêt à mourir pour une femme, n'est-ce pas? Mais en disant cela, des fois, je crois qu'on a fait une erreur, on a donné comme une excuse aux femmes de ne pas respecter le mari jusqu'au temps qu'il est digne de respect. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que vous aussi, de votre côté, vous pouvez prendre un pas de la foi et vous pouvez initier le respect dans votre mariage et ça peut même faire en sorte que vous allez provoquer les choses chez votre mari qui vont changer votre situation et il va devenir digne de respect. Il y a un principe spirituel, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen? Et la Bible ne dit pas, femmes, respectez vos maris s'ils sont dignes de respect. Amen? Donc, il y a un équilibre. Équilibre. Quand on parle de la soumission, le respect, être soumis, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être sous la mission de quelqu'un d'autre. Amen? Moi, en tant que chrétien, je suis soumis à Jésus qui est la tête de l'Église, n'est-ce pas? C'est lui qui est en charge, mais il m'aime. Et je suis soumis, je suis sous la mission de Jésus-Christ. Amen? Dans un mariage, une femme est appelée à être sous la mission de son mari. Mais un bon mari ne va pas être un dictateur. Un bon mari ne va jamais dire, femme, sois soumise. Amen? Parce que la soumission est quand même volontaire. Ce n'est pas une chose qu'on peut exiger. Je ne peux jamais exiger à mon épouse de me suivre. Femme, tais-toi et suis-moi. Il y a des hommes qui sont comme ça. Et c'est pas bon. Amen. Donc, on essaie de trouver un équilibre. Pourtant, mesdames, il y a quand même quelque chose dans les Écritures qu'on veut voir aujourd'hui, que vous, de votre gré, vous pouvez prendre une décision d'activer votre foi qui marche par l'amour. La foi et l'amour vont ensemble, n'est-ce pas? Vous pouvez par la foi activer l'amour dans votre vie. Vous pouvez faire les choses pour démontrer un respect pour la position que votre mari tient dans le foyer et ça peut changer les choses dans votre mariage. Amen. Regardons bien. Il y a un verset en 1 Pierre chapitre 3, verset 1, qui dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, s'ils n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, tout de suite, une femme qui dit, je vais être soumise à mon mari dès qu'il commence à agir comme il faut, c'est pas qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit que même s'il y a un mari qui n'obéisse pas à la parole, même s'il est non-croyant, vous devrez jamais, mesdames, si vous êtes déjà dans le Seigneur, fréquenter ou vous marier avec un non-croyant, ça c'est officiel. Mais si vous êtes déjà dans une relation, et si c'est déjà le cas, c'est trop tard, on va rectifier la situation, on va trouver un remède pour la situation, mais mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je veux qu'on voit, c'est que si un homme n'obéit pas à la parole, une femme peut quand même démontrer une attitude de soumission et de respect, et ça peut même gagner son mari au Seigneur. Amen? Oh, c'est très silencieux dans cette église traditionnelle ce matin. Mais c'est des bonnes choses, n'est-ce pas? Mais regarde bien, il dit ceci. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est très silencieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouh! Il y a quelque chose qui s'est passé à la chute de l'homme. Hein? C'est vrai, hein? Si tu lis Genèse chapitre 3, tu vas voir, il y a quelque chose qui s'est passé à la chute de l'homme. Il y avait un esprit rebelle même qui a pris vie dans le cœur de la femme qui résiste naturellement à la soumission à un homme. C'est ça, hein? Lisez ça, c'est pas moi, OK? Je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient me traîner dehors et me lapider ce matin, mais... Tout le monde m'aime encore? On va avoir du fun plus tard ce matin, hein? On va avoir beaucoup de fun, OK? Souriez un petit peu, hein? Wow! Tout ce que je fais, je lis la Bible, OK? C'est pas de ma faute. C'est d'elle qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mais être un Seigneur, avoir un Seigneur, c'est pas une chose négative. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir un Seigneur aujourd'hui? Je suis content de savoir que Jésus est mon Seigneur, que c'est lui qui est mort pour moi, qui prend soin de moi, qui vit pour moi, qui me protège. Il est ma force et mon amour. Amen. Et de la même façon, dans la relation d'un couple, surtout c'est facile si le mari fait sa part. S'il aime son épouse comme Christ aime l'Église, c'est facile pour l'homme d'être soumise. Pardon, pour la femme d'être soumise. Merci. C'est facile parce que, c'est facile d'habitude pour nous d'être soumis à Jésus quand on sait qu'il est mort pour nous, n'est-ce pas? Oh oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande ici? C'est d'avoir un certain respect pour l'office du mari. C'est comme des fois, on a eu des leaders dans les politiques, on n'est pas toujours d'accord avec eux, vous êtes d'accord, hein? On a eu peut-être des premiers ministres ou aux États-Unis, les présidents, que dans le fond, eux autres n'étaient pas vraiment dignes d'honneur. Mais on avait besoin quand même de respecter l'office qu'ils avaient. Amen. Et de prier pour eux et de ne pas parler contre l'office, d'avoir une certaine dignité et respect devant l'office. Et je pense qu'il y a une crainte de Dieu qu'on a besoin de développer, mais aussi une crainte de Dieu dans le sens de respecter les lignes d'autorité que Dieu a établies. Amen? Mais ici, il dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Et laisse-moi te dire, Abraham n'était pas toujours parfait non plus, est-ce que vous êtes d'accord? C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Juste parenthèse. Le Seigneur ne vous demande jamais de vous soumettre à l'abus. Amen. Si vous êtes dans une situation où vous êtes abusé physiquement ou émotionnellement, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à l'abus. Amen. Votre soumission est toujours à l'autorité la plus élevée. Et votre autorité la plus élevée, c'est le Seigneur Jésus et sa parole, et ensuite votre mari. Amen. Et si jamais votre mari vous demande de faire quelque chose qui va contredire l'autorité de Jésus-Christ ou de sa parole, vous n'êtes pas obligé de l'obéir. Amen. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment abusé, je vous conseille même de quitter cette situation. Je ne dis pas de vous divorcer, mais au moins d'aller trouver un refuge pour donner le temps de voir s'il y a un moyen de réconcilier. Amen. Mais juste parce qu'il y a des personnes qui vont abuser ces versets en disant, mais écoute, restez là, soumettez-vous à votre mari, peu importe qu'est-ce qu'il vous demande de faire. Ça, c'est faux aussi. Amen. Donc, il y a un équilibre, OK? Vous m'aimez toujours, n'est-ce pas? Donc, titre 2, 3 et 4 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Je veux que vous souligniez une partie de cette phrase, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Pourquoi est-ce que la Bible dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes? Parce que ce n'est pas une chose que vous savez naturellement. Vous avez besoin d'apprendre comment aimer vos maris et vos enfants. Moi, j'ai eu besoin, comme la Bible a dit, Marie, vivez avec connaissance, efforcez-vous de comprendre vos épouses, On a besoin d'étudier et de travailler fort pour pouvoir comprendre nos épouses, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose pour vous, mesdames. Vous pensez savoir qu'est-ce qui se passe entre les oreilles de votre mari, mais c'est peu probable que vous savez pour vrai. Vous pensez savoir qu'est-ce qu'il ressent, mais c'est comme moi, il est impossible pour moi de savoir vraiment qu'est-ce que c'est d'accoucher. Je peux avoir beaucoup de compassion pour les femmes qui accouchent. Et moi, j'ai assisté à 5 accouchements avec mon épouse et je sais que ce n'était pas une chose évidente. Mais pour moi, de dire, oh oui, je sais c'est quoi d'accoucher. Toutes les femmes, je vois, vous êtes en train de me regarder avec les... Oh oui, vous pensez savoir, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est d'avoir certaines hormones qui vont circuler dans mon système à un niveau plus élevé une fois par mois. Je ne sais pas. Je peux essayer de comprendre, mais je ne saurai jamais. Mais laisse-moi vous dire, vous, mesdames, vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est d'avoir le testostérone qui agit dans votre corps non plus, hein? Vous pouvez penser savoir qu'est-ce que c'est, mais vous êtes dans les ténèbres. Amen. On a besoin de se comprendre et d'essayer d'être compatissants les uns avec les autres et d'essayer d'être patients les uns avec les autres. Amen. Il y a des choses que je ne saurai jamais. Merci Seigneur. Et il y a des choses que vous, mesdames, vous ne saurez jamais. Et vous pourrez dire merci Seigneur aussi. Des fois, on pense, oh, ça serait beaucoup plus facile d'être un homme. Ou des fois, les hommes ont dit, oh, ça serait facile d'être une femme. Mais non, merci. Je suis content d'être né un homme. Je suis content que tu en aies né une femme. Et Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Mais comme moi, j'ai besoin d'apprendre et d'étudier, de savoir comment rendre mon épouse heureuse, vous aussi, vous avez besoin d'apprendre comment rendre votre mari heureux. Ce n'est pas une chose que vous allez savoir naturellement. Donc, et là où, la semaine passée, on a vu les 5 besoins primordiaux de la femme, aujourd'hui, on va voir les 5 besoins primordiaux chez l'homme. On a dit que le premier besoin chez la femme, c'était l'affection, n'est-ce pas? Une femme a besoin d'affection, d'être aimée, que ce soit avec les paroles valorisantes, que ce soit avec les temps de qualité, les actes de service, ou avec le toucher physique non sexuel, ou avec les cadeaux, les choses comme ça, juste la tendresse. Une femme a besoin de savoir qu'il n'y a personne sur la planète ou rien sur la planète qui est plus important aux yeux de mon mari que moi. N'est-ce pas vrai? Une femme a besoin de savoir, de la même façon que nous, en tant qu'Église, on a besoin de savoir, aux yeux de Jésus, il n'y a rien de plus important que son Église. Nous sommes numéro un pour lui. Mais pour un homme, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent deviner chez un homme, dans le contexte d'un mariage, c'est quoi le besoin numéro un que un homme va ressentir? Hein? Il n'y a personne qui veut le dire, hein? Et moi j'ai le devoir de prêcher ceci aujourd'hui, hein? À tous ces gens, hein? Et maman est sur le premier rang aussi, hein? Mais on n'est pas gêné. Parce que c'est important. Mais vous savez que d'habitude, si on fait un sondage, d'habitude, c'est pas toujours le cas, mais d'habitude, numéro un sur la liste d'un homme, il va dire une relation sexuelle qui est satisfaisante. C'est une chose et un besoin. Et souvent, les femmes tout de suite vont avoir, oh, les hommes sont tellement des animaux, hein? Naturels, hein? Pas trop spirituels. Mais, qu'est-ce qu'on veut savoir et on veut vraiment, vraiment faire aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. On pourrait passer toute une heure juste là-dessus et on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui est tellement important quand on parle de la sexualité. Parce que de un, c'est Dieu qui a créé le sexe. C'est son idée à lui. Ce n'est pas une chose qui est sale. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a tellement de bagages émotionnels, tellement de blessures. Pourquoi? Parce que la société nous a enseigné à faire les choses qui sont complètement contraires aux principes de la parole de Dieu par rapport à la sexualité. La plupart des enfants aujourd'hui vont avoir leur première expérience sexuelle à 13, 14, 15 ans. Et le moyen au Canada, c'est 14 partenaires sexuels dans une vie. Mais le plan de Dieu, c'est pour un homme, pas un garçon, une petite fille, mais un homme avec une femme, de s'engager l'un envers l'autre et d'avoir une relation sexuelle qui va durer pendant 60 ans du mariage. Une seule personne, un seul partenaire, amen, pour toute la vie. Et si vous avez votre intelligence renouvelée, vous n'allez jamais avoir une réaction négative par rapport à la sexualité. Quand on parle de la sexualité, vous n'allez pas avoir des frissons, vous n'allez pas avoir des « oh, mais c'est sale », mais il y en a beaucoup, même dans les églises. Et souvent chez la femme. Pourquoi? Il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées. Beaucoup de femmes qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu des relations sexuelles avec des personnes qui n'étaient pas en amour avec eux, mais qui voulaient juste avoir du plaisir physique. Et ils se sont laissés user par les hommes. Est-ce que j'ai raison ou non? Mais on ne jette pas le bébé avec l'eau de bain, n'est-ce pas? La réalité, c'est que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et Dieu a créé le sexe pour trois raisons primordialement. La procréation, c'est-à-dire de produire des enfants, pour que la race humaine puisse être propagée et puis continuer, c'est normal. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent, ça c'est la seule chose. On va avoir des enfants et c'est tout. Hein? On parle de certaines personnes qui sont tordues dans leur façon de penser. Mais savez-vous que la deuxième raison, c'est dans vos notes, c'est le plaisir. Dieu veut qu'une relation sexuelle soit satisfaisante pour un homme et pour une femme. Pour les deux. Amen. C'est pas une chose qu'une femme va subir pour faire plaisir à son mari. Et si vous avez cette attitude, votre mari ne sera jamais satisfait. Même si vous faites l'amour 5 fois par jour, si pour vous c'est un devoir, il ne sera jamais satisfait. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il ne veut pas juste une expérience physique, il veut une expérience sur les trois dimensions, esprit, âme et corps. Amen. Donc vous savez, quand on parle d'assurer une relation sexuelle qui est satisfaisante pour votre mari, on ne parle pas juste de dire « ok, bon ». On va le faire. Est-ce que vous êtes content de ne pas avoir ma job ce matin? On va le faire, mais c'est tout. Un homme a besoin de savoir, parce que ça, c'est une chose. C'est une chose spirituelle, émotionnelle et ensuite physique. C'est pourquoi c'est vraiment les enfants de Dieu qui sont les seuls êtres sur la terre qui peuvent vraiment avoir une bonne relation sexuelle. Dans le monde, ils peuvent avoir des expériences au niveau des émotions et au niveau physique, mais nous, on peut avoir une expérience où on peut même inviter la présence du Seigneur lui-même dans notre lit conjugal. Dieu ne ferme pas ses yeux, laisse-moi vous dire, hein? Des fois, on a l'impression, le Seigneur, c'est OK. Le Seigneur est avec nous. Et il n'a pas honte, il ne rougit pas. Pourquoi est-ce qu'on rougit des fois? Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Rien à craindre et rien à cacher. Donc, mesdames, surtout si vous avez les émotions, les idées que vous n'êtes pas confortable avec cela, demande au Seigneur, « Seigneur, renouvelle mon intelligence. Aide-moi à changer ma façon de penser. » Mais messieurs, aidez votre épouse. Traitez pas votre épouse comme une prostituée. Traitez-la comme quelqu'un qui va hériter la vie éternelle avec vous. Amen. Montrez du respect et de l'affection. Si vous faites votre job, si vous donnez beaucoup d'affection et de conversation à votre épouse, elle va vouloir faire l'amour. N'est-ce pas? Hein? Il y a un bon livre qui existe, hein? Comment faire l'amour avec toute vêtue? Ou faire l'amour commence dans la cuisine. Ce sont des vrais livres chrétiens qui existent, hein? Et ça enseigne aux hommes comment faire l'amour à votre épouse, mais pas physiquement, mais émotionnellement. De démontrer l'affection dont elle a besoin. Et ça, c'est une chose que beaucoup des jeunes hommes ont de la misère avec ça, parce qu'un homme n'est pas comme une femme. Et pour un homme, la relation sexuelle est vraiment, d'habitude, l'expression la plus profonde de son amour pour son épouse. Pourtant, pour la femme, c'est l'atmosphère dans laquelle cette expression peut avoir lieu. C'est juste l'atmosphère. Amen. Et je ne dis pas que les femmes ne sont pas désireuses non plus, parce que, laisse-moi vous dire, Dieu nous a créés tous les deux, hommes et femmes, d'avoir un désir sexuel. Et si notre... Est-ce que je vais juste le dire encore? OK. Mais votre organe sexuel le plus important, c'est votre cerveau. Amen. Et si vous savez penser comme il faut, si vous avez renouvelé votre intelligence, et messieurs, si vous avez eu un problème avec la pornographie, avec les choses sales de ce monde, vous avez besoin de renouveler votre intelligence pour pouvoir amener dans votre vie conjugale la sainteté et la pureté. Amen. Mais si tout le monde a les pensées qui ne sont pas corrompues, les pensées qui sont pures, ça va être une chose positive pour les deux. Amen. Important. Regardons le verset qui est là. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, trois raisons que Dieu a créé le sexe, et il y en a d'autres, mais ça, c'est les trois raisons primordiales. C'est la procréation, c'est-à-dire produire les enfants, le plaisir, et puis finalement, la protection. Parce que si vous avez une bonne relation sexuelle avec votre conjoint, il y a une protection sur votre relation. C'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'autre, une autre femme, d'arriver sur la scène si vous êtes en train de vivre en harmonie avec votre conjoint et vous avez une bonne relation sexuelle. Amen. Procréation, plaisir et protection. C'est pourquoi la Bible dit Jacques 1, 21, « Rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Pourquoi est-ce que je mets ce verset-là? Parce que, encore, il y a un parallèle entre la relation sexuelle et la relation de Christ et l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que nous, en tant qu'Église, nous passions du temps de qualité avec le Seigneur et dans l'intimité de notre temps de prière et notre temps dans la parole de Dieu, qu'on soit prêt à recevoir Jésus et d'ouvrir notre cœur et de recevoir la semence de sa parole dans notre vie. Dieu veut qu'on tombe enceinte avec ses plans et ses projets avec sa parole. Amen? C'est une bonne chose. De la même façon, hein, que dans le naturel, une femme va recevoir son mari et va recevoir la semence dans son corps physique. Elle va tomber enceinte et produire encore plus de vie. De la même sens, Dieu veut nous donner du plaisir dans sa présence, mais il veut aussi planter la semence de sa parole dans notre cœur. Il y a un parallèle dans l'esprit. Amen. Et on a besoin de cela. Mais messieurs, comme je dis, faites attention. Je prends beaucoup de temps là-dessus parce que si jamais on parle des problèmes conjugaux, il y a trois choses primordiales qui causent des problèmes et qui sont vraiment les causes des divorces. C'est les problèmes d'argent, les problèmes de communication, les problèmes au niveau de sexualité. C'est pourquoi j'ai pris pas mal de temps aujourd'hui avec ça. Et messieurs, faites pas l'erreur, donnez votre épouse l'affection. Si elle te donne, elle t'embrasse ou elle te donne des caresses, prends ça pas comme un indice que, oh, elle veut aller se coucher, elle veut faire l'amour. Amen. C'est l'expérience qui parle. Hey, moi, je me suis marié à 18 ans. Hein? 18 ans. Plein d'énergie, plein de testostérone. Hein? Et je partage ces choses parce que ça a causé des problèmes dans notre relation au début. Parce qu'elle avait besoin d'affection. Et moi, je pensais à chaque fois qu'elle voulait m'embrasser que, ah, oh, bon, c'est, ah, oh, oui, bonne idée. Mais savez-vous quoi? À un moment donné, elle avait moins le goût de m'embrasser. Parce qu'elle savait que si à chaque fois que je l'embrasse, ça va commencer. Est-ce que je peux parler terre à terre aujourd'hui? C'est comme ça que ça marche. Si tu n'aimes pas ça, c'est la vérité quand même. Hein? Je vous aime assez pour vous donner la vérité. Numéro 2. Deuxième besoin conjugal chez l'homme, c'est d'avoir un partenaire dans les loisirs. Donc, passer du temps avec lui dans les loisirs. La plupart des hommes, ils veulent avoir pas juste une femme qui va faire l'amour et faire la nourriture. Et si c'est ça que vous voulez, vous ne devrez pas vous marier. Hein? Mais la plupart des hommes veulent être mariés avec leur meilleur ami. Ils veulent passer du temps avec leur meilleur ami. Et c'est pourquoi c'est important de passer du temps. En fait, il y a un bon verset, Ecclésiaste 9:9, qui dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. » Jean 15:15, si on regarde le parallèle spirituel, Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Si vous voulez avoir vraiment une bonne relation avec votre mari, vous devrez devenir la meilleure amie de votre mari. C'est-à-dire que des fois, passer du temps avec lui en faisant les choses que peut-être vous n'aimez pas forcément faire, mais lui, il aime faire. Aller faire une randonnée ou peut-être même à l'occasion aller à la pêche ou faire quelque chose. Mais vous, peut-être, vous devrez apprendre à magasiner ou faire les choses que vous n'aimez pas forcément, mais... Amen. Vous savez, vous êtes capable de magasiner, messieurs. Hein? Il faut juste comprendre comment ça fonctionne dans la tête de votre épouse. Vous savez, parce que les hommes sont les chasseurs d'habitude. Hein? On fixe un objectif et on sait. Si on sait qu'est-ce qu'on va faire dans le magasin, on peut aller conquérir, acheter, sortir. Wouh! Je l'ai eu. Amen. Mais une femme, c'est pas comme ça qu'elle magasine, hein? Elle veut regarder ça. On va au magasin pour acheter une chemise et tout d'un coup, on regarde les pantalons, les jupes, les robes. Chérie, je pensais que tu avais besoin d'une une chemise. Oh oui, oui. Est-ce que tu as besoin d'une jupe? Non, mais regarde, c'est joli, n'est-ce pas? Ça? J'ai appris à aimer ça. Par la foi. Et c'est pas souvent parce que Tania, c'est pas une personne qui magasine souvent, dans le fond. Elle aimerait faire ça plus souvent, mais... vois-tu, on peut faire des compromis. Messieurs, allez magasiner des fois. Et madame, peut-être vous pouvez aller, je sais pas, faire du quatre roues, ou aller à la pêche, ou faire quelque chose, faire du vélo avec votre mari de temps en temps, et ça va lui faire vraiment plaisir, ça va le rendre heureux. Est-ce que j'ai raison, monsieur? Ouais. Mais ça, c'était faible. Ça, c'était vraiment faible. N'est-ce pas vrai, messieurs? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Indigestion spirituelle ce matin ou quoi? De la misère à digérer le message ou quoi? C'est bon, on fait le crémage aujourd'hui. C'est simple, mesdames. Développer une bonne relation, une bonne attitude envers le sexe et passer du temps avec lui dans les loisirs. Numéro 3, faire les efforts pour devenir et rester une épouse attirante. Je ne dis pas que vous avez besoin de devenir une mannequin, un mannequin, ok, ou mannequin, pardon, mannequin, mannequin. Ben, je peux parler, je pense, mais des fois. C'est un message difficile ce matin, non. Souvent, les personnes vont dire, « Oh, mais... » Je vais juste donner un exemple. Les hommes qui sont les chasseurs, ils ont une mauvaise habitude souvent. Ils commencent dans la vie avec des objectifs, ok? Je vais aller trouver un job, je vais trouver une épouse, je vais acheter une maison. Donc, ils trouvent le job, c'est fait. Ok? Je trouve l'épouse, ok, c'est fait. C'est comme le chevreuil qui est en arrière du camion, hein? C'est comme, je suis allé à la charge, j'ai pogné une bonne et, ok, on y va, prochain objectif. Ok? Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut. Il faut continuer. Qu'est-ce qu'on a fait pour gagner notre épouse? On devrait continuer à faire. N'est-ce pas? Mais vous savez, c'est pas juste les hommes qui ont ces genres de problèmes aussi. Parce que souvent, une femme peut faire tous les efforts pour gagner un homme. Elle va prendre le pain de se maquiller, de prendre, de mettre le meilleur vêtement qu'elle a. Elle va mettre un peu de parfum. Elle va aller chez la coiffeuse. Elle va faire son possible pour être attirant, n'est-ce pas? Et l'homme, il dit, hey, oh là là, elle est belle. Et commence une bonne relation. Il se marie. Et puis, après quelques mois, il se pose la question, où est cette jolie femme? OK? Elle est toujours habillée dans mes vêtements. Elle se brosse plus les dents le matin. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Donc, il y a quelque chose dans le cœur d'un homme qui veut que son épouse soit attirante. Et on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Si on se compare avec les autres, on n'est pas sage, n'est-ce pas? Parce qu'on peut, si on se compare avec les autres, deux possibilités. Soit, je vais avoir une basse estime de moi-même. Si l'autre personne, c'est moi, par exemple, hein? Moi, je commence à m'entraîner et tout, et ça va bien, mais si je me compare avec Arnold Schwarzenegger ou quelques autres hommes qui ont vraiment bâti, c'est comme... Mais je peux toujours trouver quelqu'un, par exemple, pour dire, ben, au moins, je suis mieux que lui. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, c'est soit une basse estime de soi ou l'orgueil qui va se manifester. Comparez-vous pas avec l'autre. Votre mari, il ne s'attend pas à ce que vous soyez la reine. Mais vous comprenez? Mais il veut que vous fassiez le mieux que vous pouvez et que vous démontriez que vous avez un désir d'être belle pour lui. Ça va rendre votre mari heureux. Amen? Donc, prenez le temps. Et c'est spirituel aussi. Il y a un parallèle spirituel. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus revient pour une Église qui est sale, qui est pleine de rides, pleine de taches, n'est-ce pas? Non. Ils viennent pour une église qui est sans taches, ni rides, ni rien de semblable. Amen. Comme la parole de Dieu dit, Cantique 4:1, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Ça, c'est Salomon qui parle. Mais vois-tu, ça, c'est dans le cœur d'un homme. Il veut voir son épouse et voir, ah, elle est belle. Amen. Apocalypse 19, 17 et 8 dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée. Amen. Pour son époux. Donc, vous voyez, c'est spirituel, c'est une bonne chose de prendre soin de vous-même et d'essayer d'être la personne la plus attirante que vous pouvez. Amen. Pas juste physiquement, mais aussi émotionnellement et dans tous les domaines. Numéro 4, quatrième besoin d'un homme, c'est d'avoir du soutien dans le foyer. Donc, créer et maintenir une atmosphère de paix et de tranquillité au foyer. Comment on dit la paix et la tranquillité? Amen. Proverbe 21:9 dit, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Mesdames, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez un pouvoir incroyable. Si maman n'est pas heureux, personne n'est heureux. Vous êtes capable de créer une atmosphère, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes capable de créer une atmosphère. Comme j'ai entendu un pasteur dire, des fois, une femme est capable de faire descendre la température dans une pièce dans un clin d'œil. C'est vrai, hein? Et elle n'a même pas besoin de dire un mot. Souvent, c'est le truc. Elle dit rien. Ça va bien, chérie? Ah ouais. Oh. Frigérateur, hein? Congélateur, ça va pas bien, hein? Est-ce qu'il y a un problème?
Non.
Et elle, encore plus froide, ça descend encore 2 degrés parce que si m'aimait vraiment, il saurait qu'il y a un problème. Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Si tu m'aimais vraiment, tu saurais. Tu n'es pas sensible. Une femme a une capacité de créer une atmosphère, soit pour le bien ou pour le mal. Donc, vous avez une occasion de créer une atmosphère de tranquillité et de paix dans votre foyer. C'est vrai dans un sens. Pour un homme, son foyer, c'est son château. Amen. Et vous êtes capable de créer une atmosphère de paix et de tranquillité où il va vouloir revenir. Souvent, il y a des personnes qui vont faire des liaisons, des aventures, c'est parce qu'ils ne veulent plus revenir à la maison. Parce qu'ils savent que dès que je rentre, je vais avoir de quoi. Et la raison qu'elle fait ça souvent, c'est parce que vous rencontrez pas ces besoins, monsieur. Amen. Mais c'est un cycle vicieux. Il ne va jamais vouloir rencontrer vos besoins, mesdames, si à chaque fois que vous dites, mais vous ne faites jamais ça, vous n'utilisez jamais le mot jamais. Avec un homme surtout, hein, parce qu'on sait, même si sur 100 fois, on l'a fait 99 fois, et tu dis, mais toi, tu fais toujours, ou tu ne fais jamais, on va dire, ah oui, mais il y avait une fois, en 1967, quand. Tu exagères! En Pierre 2, 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle en saint sacerdoce afin d'offrir les victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. De la même façon que Dieu veut habiter sa maison, l'Église, on a besoin de créer une atmosphère de paix et de tranquillité dans l'Église, n'est-ce pas? Pour que Jésus soit à l'aise, pour qu'il se sente chez lui dans son Église, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez, dans l'Église, créer une atmosphère où le Seigneur est bienvenu? Où il veut être avec nous, c'est pas toujours la chicane, pas toujours des problèmes. Même chose pour votre mari. Il veut être capable de rentrer et de savoir, ah, c'est la paix. Il veut être accueilli avec amour. Amen. Donc ça, c'est une chose que, avec l'aide du Seigneur, on peut faire. Amen. Donc numéro 5, dernière chose et peut-être la chose la plus importante, c'est de donner avec libéralité l'admiration dont il a besoin. Comment on dit admiration. Écoutons qu'est-ce que l'épouse de Salomon a dit. Qu'a ton bien-aimé, ce sont des autres filles qui parlaient avec elle, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme de Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Est-ce que tu penses qu'elle est en amour? Laisse-moi vous dire, mesdames, il n'y a rien que votre mari veut plus que d'entendre de vos lèvres ou de voir dans votre attitude, dans vos actions, que vous avez de l'admiration pour lui. Que pour vous, dans vos yeux, il n'y a personne comme lui. Il veut être votre héros. C'est la réalité, hein? On dit, oh, c'est orgueilleux, ça, hein? C'est juste comme ça qu'on est fait. Il y a un parallèle dans l'esprit. Nous, l'Église, comment est-ce qu'on est supposé de aimer Dieu, on est supposé d'adorer Dieu et de louer Dieu. Seigneur, nous t'aimons, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et de la même façon, nous, ici sur la terre, les femmes sont supposées d'avoir du respect et d'admiration pour leur mari, comme l'Église a du respect pour Jésus. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais il n'est pas digne de respect. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Peut-être il va vouloir. Vous savez, si on donne une vision dans quelqu'un. Souvent, si on dit, même en enfant, « Oh, on croit que tu es capable. On sait que tu vas réussir. » L'enfant dit, « Ah, oh, maman, papa, crois en moi. » Donc, ils vont faire tout le possible pour réussir. Si un homme sait que ma femme pense que je suis son héros, je suis quelqu'un, elle a du respect pour moi, elle admire qu'est-ce que je fais, elle admire ma personne, donc, il faut que je fasse attention pour être la personne qu'elle voit. Amen. Mais si vous dites autre chose, mais vous ne faites jamais ça. Vous faites toujours ça. Pourquoi est-ce que vous... Qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer sur votre mari? Les mauvaises choses. Et ce que vous dites, c'est ce que vous allez avoir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans vos notes, loue-le publiquement et en privé pour ses accomplissements et ses qualités en évitant toute critique. Vous savez, il n'y a rien de pire que de voir une femme critiquer son mari en public devant une autre personne. Des fois, ils font des jokes. Des fois, je vois des hommes qui vont faire des jokes sur leur femme. Ça, c'est horrible. Mais je vois souvent les femmes qui vont faire la même chose avec le mari. Oh, mais mon mari, il est ou au téléphone avec la chum de fille, en train de critiquer son mari. Dangereux. Loue-le. Dis quelque chose pour devant les autres que j'aime mon mari. Amen. Il est bon. Dis quelque chose devant lui et devant les autres qui va augmenter son estime de soi. Amen. Montrez-lui par votre attitude et vos paroles que vous avez du respect pour sa personne, ses opinions et ses contributions. Amen. Est-ce que vous êtes là? De la même façon que l'Église loue le Seigneur, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. L'Église est supposée sans cesse de louer le Seigneur. Et je pense que les femmes devraient sans cesse louer leur mari aussi. C'est juste un principe biblique. Mais il n'est pas digne de louange. Prenez le premier pas. Je vais juste lire qu'est-ce que la Bible amplifiée dit. 1 Pierre chapitre 3. Ça parle de l'importance pour une femme d'avoir de la révérence et du respect pour son mari. Il dit d'avoir du respect pour ton mari. C'est de cette façon, écoutez bien, que tu dois te conduire envers lui, incluant tous les aspects du respect. C'est-à-dire, il faut respecter ton mari. OK? Il faut lui laisser la place qui lui revient en tant que chef de la famille. Honorer, apprécier, et dans le sens humain d'adorer. Là, ça c'est la Bible amplifiée en anglais, qui dit aux femmes, dans le sens humain d'adorer votre mari. Quelque chose, n'est-ce pas? Adorer veut dire d'admirer, d'apprécier, d'être fier de lui, être dévoué envers lui, de l'aimer profondément et de soit satisfait avec lui. Quelque chose, n'est-ce pas? Mais dès qu'il change, je vais faire ça. Dès que vous faites ça, peut-être qu'il va changer. Amen? Laisse-moi vous dire, ça c'est motivant pour un homme. Ça c'est motivant pour un homme de savoir, mon épouse, elle a du respect pour moi. Donc, bref, que chacun de vous aime son épouse comme il aime lui-même. Et que chaque femme ait du respect pour son mari. Messieurs, si vous prenez le premier pas de donner les 5 besoins à votre épouse, elle va être beaucoup plus motivée pour vous faire plaisir. Amen. Mais mesdames, même si lui ne prend pas le premier pas, vous pouvez de votre côté prendre le premier pas. Amen. Donc, c'est à vous de choisir. Soit d'être borné, avoir une tête dure et dire non, je ne bouge pas à moins qu'il bouge. Ou, messieurs, vous pouvez dire la même chose. Je ne vais pas lui donner l'affection, je ne vais pas lui donner la conversation, je ne vais pas lui donner le soutien financier, les choses dont elle a besoin, à moins qu'elle commence à me donner du respect. Non. Peut-être si vous faites les premiers pas, elle va vous donner le respect. Vous savez, la clé, c'est de dire, ne pas dire « Seigneur, change l'autre », mais la clé, c'est de dire « Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à prendre le premier pas. » Et comme ça, on va avoir du succès. On va réussir le mariage. Amen? Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Jean-Charles, si tu peux venir au clavier, on va fermer la réunion ce matin. Hey, j'étais même pas lapidé. Tout est correct. Pas de bleu, pas de blessure. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu marche, que ça fonctionne, que ça va produire des résultats?